When we found our work on real relationships and in being intentional so that those relationships grow stronger on foundations of trust, joy, and compassion, the more creative freedom we will gain and the more willingness we will have to extend ourselves outward. And then we can affect change beyond ourselves and create inspired communities of support that defy the systems of violence we live in.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. On vient d'écouter un extrait des Emma Talks, un projet de la militante canadienne Carla Bergman. Elle réunit des femmes, personnes trans et non-binaires, militantes, autrices, intellectuelles, pour une série de discours live et digital. Dans ce très court extrait qui date de 2016, l'activiste Kelsey Cham Corbett concluait son intervention par l'importance des relations au sein des mouvements militants, comment elles permettent aux communautés d'être plus fortes et même plus joyeuses. Car ce soir, on parle de joie militante autour du livre Joyful Militancy, coécrit par Carla Bergman et Nick Montgomery, chercheur-auteur militant lui aussi. On a discuté avec sa traductrice en français, Juliette Rousseau, car le livre vient de paraître aux éditions du Commun sous le titre « Joie militante, construire des luttes en prise avec le monde ». Le nom de Juliette Rousseau vous dit peut-être quelque chose, car nous avons déjà reçu cette chercheuse aux oreilles, c'était pour son ouvrage « Lutter ensemble » en avril 2019. Je la laisse pour commencer, enfin pour finir, mais ça c'est la magie du montage. En tous les cas, je la laisse vous en dire un peu plus sur son travail de traduction, sur comment ses réflexions de recherche à elle autour des pratiques d'organisation militante l'ont en fait aidé à transposer les notions philosophiques du livre, parfois très anglo-saxonnes. L'occasion de vous donner d'ores et déjà très envie de lire ce livre. On vous emmène donc sur la terrasse des locaux de Mediapart dans lesquels Juliette Rousseau se trouvait pour un entretien, ce qui explique quelques bizarreries sonores que vous entendrez ici et là.
Ce livre, je l'ai lu quand j'écrivais mon propre livre avant et que c'était déjà des questions qui me traversaient. Donc, il y a un ensemble de termes auxquels j'avais déjà réfléchi. Est-ce qu'on peut les traduire? Si oui, comment? Et puis, si on ne peut pas les traduire, comment est-ce qu'on les explique, etc. Finalement, tu vois, un des trucs qui m'ont un peu surprise, c'est que moi, je ne suis pas une grande lectrice de philosophie dans l'ensemble. Je suis plutôt une sociologue, quoi. Donc, j'ai plutôt tendance à aller vers la sociologie. Et la philosophie, en général, ça me paume un petit peu. Ce bouquin, qui est quand même très largement influencé par des philosophes, je l'ai trouvé assez accessible, et donc y compris dans la traduction. Évidemment, ça implique de se poser tout un tas de questions parce qu'un ensemble de notions qui sont abordées sont très étrangères en français et du coup dans les cultures politiques françaises. Il y a des termes et par ailleurs ce qui est intéressant, c'est justement des termes qui ont été développés dans les espaces militants en Amérique du Nord, qui sont difficiles à traduire en français, parce que en fait, ce sont des concepts qui n'existent pas. Ils n'ont pas forcément vocation à exister en français. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait absolument qu'on se les approprie tels quels et qu'on. Mais je pense que c'est intéressant justement d'essayer de pousser, de donner à voir ces concepts qui sont des concepts pratiques en fait de la lutte et d'essayer de les illustrer. Peut-être certains impensés, en tout cas, de nos pratiques de lutte.
Nommer certains impensés, donc, mais aussi repenser certains noms. C'est le cas du concept de la joie qui est, comme Juliette Rousseau l'explique dans les extraits qui vont suivre, bien loin du bonheur ou de la satisfaction consumériste capitaliste.
En fait, c'est vraiment un concept de la joie qui n'a pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on se fait de la joie quand on ne cherche pas à la définir plus que ça, ou en tout cas l'idée un peu partagée de la joie qui serait plutôt semblable au bonheur, c'est-à-dire des sentiments positifs, confortables, etc. Là, c'est vraiment la joie donc, inspirée du travail de Spinoza, la joie comme un état qui accompagne les processus de transformation, un état dans lequel les affects sont plus présents, dans lequel on habite les situations plus pleinement et qui peut comporter en fait tout un ensemble d'émotions, d'affects qui ne sont pas nécessairement positifs, même à l'inverse. En fait, ce qu'expliquent Bergman et Montgomery, c'est notamment qu'en fait, dans les processus de transformation, qui sont ceux qu'il et elle appellent en fait de leur vœu, on peut passer par tout un ensemble d'émotions dites négatives, la peur, l'inconfort, voire la douleur, le deuil, etc. Et c'est en partie ces émotions-là qui peuvent nous mettre en mouvement. Donc la joie, c'est plus la capacité à habiter les situations, accompagner la transformation, se mouvoir en fait avec le monde, en fait chercher à faire bouger le monde en même temps qu'on bouge soi-même, plus qu'un sentiment définitif de confort ou de bonheur, quoi. En fait, ils font une critique assez forte du bonheur tel qu'il est construit dans ce qu'ils appellent l'empire. Alors, ils parlent d'empire pour désigner l'ensemble des rapports de domination imbriqués et ce qu'ils appellent la force de destruction du vivant à l'œuvre. En fait, ils expliquent que dans ce système, dans cet empire, finalement, le bonheur, c'est une nécessité, c'est un devoir. On doit être heureux, donc ça passe par des formes de consommation, par tout un ensemble de choses. Iléa explique même qu'en fait, cette injonction du bonheur, elle devient paralysante. C'est-à-dire, effectivement, quand ils parlent je pense, de recherche active de cette joie, c'est le fait notamment que dans la recherche de la transformation du monde et dans la capacité à habiter cette transformation, il va y avoir forcément des processus inconfortables. Et en même temps, c'est une capacité à être en lien, être connecté aux choses à mesure qu'elles se passent et aux relations et aux attachements. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça vient complètement, je pense, prendre à contre-pied toute une partie de la culture militante. On pourrait dire radical ou d'extrême gauche, qui est souvent dans une tentative de contrôle des situations, d'essayer de les orienter, d'essayer de les éclairer ou de les comprendre à la lumière de l'idéologie, des théories, et qui finalement a assez, bah, même beaucoup de difficultés à partir du principe qu'en fait, pourrait être possible, c'est d'habiter les situations, de les accompagner sans être en capacité de pouvoir prédire ce qui va se passer, de pouvoir dire ça c'est valable, ça c'est pas valable, finalement d'être plus dans une forme d'expérimentation.
Et cette joie, telle qu'elle vient de la définir, ce mouvement, cette force de transformation, Juliette Rousseau nous explique que Carla Berman et Nick Montgomery la situent dans nos attachements, avec là aussi une optique différente, loin des évidences et de toute naïveté qu'on pourrait être tenté d'y voir. Très loin même.
En fait, c'est ça qui est, moi, je trouve vraiment intéressant et qui ouvre plein de possibles dans ce livre, c'est cette idée qu'en fait, c'est par l'accroissement de nos attachements, par le fait de les multiplier, par le fait de s'attacher plus. Et quand on parle d'attachement, c'est pas forcément seulement des relations humaines, ça peut être l'attachement au territoire, ça peut être l'attachement à tout ce qui compose en fait notre monde vivant. C'est l'accroissement de ces attachements-là, le fait de les renforcer, qui va nous mettre en mouvement. Et en fait, dans un monde comme le nôtre, qui est un monde en proie à tellement de destruction, s'attacher au vivant, c'est nécessairement faire face à du deuil, à de la tristesse, à de la colère. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de dire, en fait, c'est parce qu'on renforce ces attachements que nécessairement derrière on se met en mouvement. De l'attachement vient le collectif, puisqu'en fait c'est vraiment essayer j'aime bien, moi j'aime bien le terme d'habiter, essayer d'habiter nos luttes à partir de ce que sont nos mondes. Et nos mondes, voilà, encore une fois, c'est toutes les relations qui les composent. Je trouve ça vraiment fascinant, et en plus j'ai envie de dire qu'en tant que féministe, ça me touche beaucoup, parce que je trouve que aborder la question de la lutte ou des luttes au sens large à partir de leurs conséquences affectives, à partir de l'enjeu relationnel, de l'enjeu de qu'est-ce que les luttes nous font et qu'est-ce que nous faisons à celles et ceux qui nous entourent dans les luttes, c'est vraiment une approche quelque part qui brosse pas dans le sens du poil les pratiques un peu plus dominantes et patriarcales et masculinistes qu'on peut avoir dans les luttes qui sont vraiment très, voilà, qui font une grosse distinction entre les idées, la théorie et puis le ressenti et les pratiques. Et qui clairement, non seulement font une distinction, mais placent toujours les idées et la théorie, au-dessus de façon assez dominante avec ce qui se passe réellement, matériellement, relationnellement dans les luttes. Et du coup, je trouve ça vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup de réussir à penser justement à partir d'un truc très matériel qui est qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui renforce nos relations, qu'est-ce qui nous met en mouvement, qu'est-ce qui nous fait nous mettre en danger? Et là où bah finalement, Carla Bergman et Nick Montgomery, en gros, eux, ce qu'ils disent, c'est ce qui va nous pousser à nous mettre en danger, ce qui va nous pousser à nous opposer, à nous faire aller entrer en conflictualité avec les flics, avec l'État, etc. C'est la volonté féroce de défendre nos attachements, de défendre ce à quoi on tient, en fait. Donc ça, je trouve ça très chouette. Elle et il défendent vraiment l'idée la lutte, en tout cas, les luttes, ne visent pas à établir un monde pacifié dans lequel tout le monde s'entendrait bien, que ça, plutôt, c'est quelque chose qu'elle dénonce comme étant justement une dynamique de l'Empire qui consiste à vouloir unifier, homogénéiser, construire un monde dans lequel tout le monde peut être, etc. Donc, c'est vraiment défendre, ils insistent vraiment beaucoup là-dessus, défendre des mondes. Et donc, en fait, quand on dit des mondes, bah, c'est des mondes affinitaires, c'est des mondes qui sont liés par tout un ensemble d'attachements, mais qui n'ont pas forcément vocation à bien s'entendre, à fonctionner tous ensemble. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est pas une évidence en fait que tout le monde puisse meeter avec tout le monde pour le dire vite et pour le dire plus en détail, là où moi j'aime beaucoup leur approche et que je la trouve une des raisons pour laquelle j'ai vraiment eu envie de traduire ce livre et de le défendre en contexte français, c'est que je trouve qu'en fait elle combine des approches qui habituellement ne vont pas ensemble dans la littérature politique française, on va dire, et notamment cette idée de donc, la grosse influence de la philosophie, de la question des affects, etc., mais qui va de pair avec une grille de lecture qui est fortement ancrée dans la reconnaissance des oppressions structurelles. Et là où je trouve ça intéressant, c'est notamment quand il et elle parlent des attachements, tout leur travail d'aller-retour avec des luttes existantes, donc de résurgence autochtone, de libération noire, anticarcérale, féministe, etc., vient vraiment montrer comment, y compris l'attachement, quand on va chercher à le mettre au travail, va nous obliger quelque part à rendre des comptes. Et puisqu'on est pris et prise dans ce système de domination imbriquée, nécessairement, nos attachements vont nous emmener à revivre ou à vivre les violences dans lesquelles on a été construit et construite. Et là où, donc, c'est là que ça peut notamment provoquer de l'inconfort. Et je pense que quand il et elle parlent de leur processus d'écriture, c'est exactement ça qu'elles en disent. C'est-à-dire, ça nous a amené à voir aussi tout ce qui nous rassemble, mais aussi tout ce qui nous sépare. C'est-à-dire le patriarcat, le validisme, un ensemble de choses qui font que, étant les personnes que nous sommes dans cette société, finalement, on traverse aussi des choses difficiles, on se fait revivre des choses difficiles. Comment est-ce qu'on construit des attachements, non pas contre ça, non pas en dépit de ça, mais avec ça? Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment puissant aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'un des postulats du livre, et elle explique au début, c'est que leur objectif avec le livre, c'est absolument pas d'énoncer des affirmations, mais plutôt d'ouvrir des questions et de les laisser ouvertes. Et elle défend notamment l'idée qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'explorer des questions ouvertes que de chercher à y répondre. Et je pense que ça fait partie des questions qui sont laissées ouvertes, c'est-à-dire à la fois de reconnaître la complexité, de nouer des liens de part et d'autre, on va dire, au travers des formes de domination que sont notamment le colonialisme, la blanchité, et en même temps, voilà, de tisser des choses qui sont existantes, notamment des témoignages de luttes autochtones au Canada où il y a des liens qui se tissent, mais en même temps de rappeler que c'est pas du tout une évidence, que ça peut ne pas du tout être possible. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans mon livre Lutter ensemble, c'est vraiment un des fils que j'avais tiré à partir de l'expérience, à partir des entretiens avec les militants et les militantes qui mettent justement au travail ces questions de domination, c'est qu'effectivement, ça ne peut absolument pas être une injonction et ça ne sera jamais une garantie. En tout cas, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas être une garantie. Ça peut être que des expérimentations qui peuvent aller à certains endroits et pas à d'autres. Et en fait, c'est ça que je trouve puissant, c'est de reconnaître aussi que l'objectif ne peut pas être à tout prix de créer des attachements, de lutter ensemble d'une façon qui soit totale, même et puis même partielle à certains endroits. Comment on lutte à partir de la reconnaissance de la façon dont ces histoires de domination nous traversent. We've all heard so many conflicting words about life, with the wrong or right. How you gotta be working hard, and it ain't no easy job to survive, just keep it alive. We've all come to think of ourselves as links in a chain, so much to gain. We are the ones that tie our fathers to our sons, don't you know? That's how we grow. My life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching out my hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be willing. Times have changed, and it's no longer strange to make a few corrections in our direction. 'Cause being strong, more than just holding on, it's to advance. You gotta take a chance, waiting on a line.
clock of time, you won't get nowhere. Just standing there. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching out my hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be. You gotta be working hard, and it ain't no easy job to survive, just keep it alive. And we've all come to think of ourselves as links in a chain, so much to gain. We are the ones who tie our fathers to our sons. Don't you know that's how we grow? What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching for your hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching for your hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be willing. Got to be willing.
Got to be willing. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. C'était Gilles Scott-Heron et Brian Jackson qui chantaient Willing, chanson à laquelle l'écrivain Harry Alluri dédie un mot d'amour dans la postface du livre qui nous intéresse ce soir. Ce livre, c'est Joie militante, construire des luttes en prise avec le monde, paru aux éditions du Commun. On vous diffuse ce soir des extraits d'une interview qu'on a faite avec sa traductrice en français, Juliette Rousseau. Dans la première partie, elle a redéfini la joie telle que les auteurs et autrices la conçoivent, comme une façon d'habiter pleinement le monde et nos attachements. Cela implique en fait de constamment se mettre en mouvement pour ça, pour la trouver, chose loin d'être évidente ou garantie dans les milieux militants. Car comme elle va nous le raconter dans cette deuxième partie, Carla Berman et Nick Montgomery ont aussi, au travers de leurs entretiens, affronté la réalité du radicalisme rigide.
Par ailleurs, ils ont une grande transparence à l'endroit de leur processus de réflexion. C'est-à-dire, ils expliquent, par exemple, sur le terme de militantisme, de radicalisme rigide, qui est le terme sur lequel ils et elles ont fini par aboutir. Ils expliquent qu'au début, ce n'était pas le terme qu'ils avaient choisi. Et plutôt, s'inspirant de Spinoza, ils avaient choisi de parler de militantisme triste. Et que c'est dans l'interaction avec des militants, des militantes non blanches, me semble-t-il, et puis traversées en tout cas par différentes oppressions structurelles, que ces personnes leur ont renvoyé le fait que... qualifier la tristesse comme quelque chose de négatif, c'était problématique, puisque vivre dans un monde qui nous fait vivre des oppressions structurelles, ça génère forcément en nous des émotions qui sont dites négatives, mais qui sont en même temps les réponses les plus justes à ce qui nous est fait. Donc je trouve ça intéressant, cette démarche, et tout au long du livre, il y a vraiment cette interaction et cette mise en écho de différentes voix militantes, et qui, encore une fois, ne cherche pas à déterminer qui a raison ou tort dans les endroits où potentiellement il peut y avoir des frictions, et qui laisse ouvert des désaccords tout en cherchant à les explorer. Et ça aussi, c'est une approche que je trouve assez salutaire, finalement.
Une réalité assez désagréable, effectivement, et des expériences traumatisantes, mais qu'elle et ils ont décidé de regarder en face, en interrogeant les conséquences que cela a sur nos affects, et donc nos manières de lutter.
Ils et elles disent que c'est pas possible de réduire ce radicalisme rigide ni à une forme de pensée particulière, ni à un mouvement particulier. Ils et elles expliquent même qu'en fait, si on essayait de le cerner de cette façon-là, quelque part, on contribuerait à le reproduire et que c'est plutôt une tendance affective inhérente à l'Empire qui peut traverser l'ensemble des milieux politiques radicaux. Maintenant, ils essaient d'en identifier plusieurs sources qui sont effectivement assez intéressantes. La première, c'est l'idéologie. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est l'idée notamment, en gros, on aurait une forme d'idéologie un peu surplombante. Et c'est très lié notamment aux luttes marxistes, léninistes et à une forme de persistance en fait, de ces pratiques qui considèrent que On a une idéologie et puis une espèce d'avant-garde éclairée qui comprend cette idéologie et puis qui va convertir les masses quelque part. Alors, dit comme ça paraît un peu caricatural, mais finalement, je trouve que quand on observe le fonctionnement d'une partie de l'extrême gauche, on peut reconnaître ce genre de dynamique, notamment, comme je le disais tout à l'heure, le fait de conférer énormément de pouvoir à l'idéologie, à la théorie, et finalement d'assez peu regarder les conséquences, leur efficacité, leur performativité, on va dire, dans nos capacités à créer de l'engouement de masse, à militer, à être puissant, etc. Et donc ça, c'est la première source qui elle s'identifie, l'idéologie. La deuxième, c'est le moralisme, qui est un peu cette idée que, alors là, qui est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé, en tout cas que j'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu dans mes espaces militants. Il parle notamment du fait que, comme il y aurait une morale libérale, alors libérale pour elle et lui, c'est vraiment le libéral anglo-saxon, très américain, c'est-à-dire, en France, on pourrait parler de philosophie libérale, mais en tout cas, la façon dont le libéralisme économique se traduit dans une perception du monde, on va dire, qui peut tout à fait être de droite comme de gauche, en fait. Il et elle parlent d'une morale antilibérale qui se développe par réaction, en fait, dans les milieux militants, qui repose toujours sur des réactions moralistes. Et c'est notamment le fait de chercher à détecter toutes les formes d'intrusion d'une pensée capitaliste ou libérale, tout ce qui va être de l'ordre de quand on cherche à repérer les dominations partout où elles sont, quand l'enjeu devient en fait un petit peu de dénoncer tout le temps là où des choses qui ne seraient pas acceptables, qui ne relèveraient pas d'une bonne façon de faire de la politique se passent. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé, en tout cas la réflexion autour de ces pratiques est plus développée dans les milieux anglophones, notamment en Amérique du Nord, mais aussi au Royaume-Uni, en France, mais c'est notamment toute cette distinction qui est faite entre la dénonciation, le call-out, et le fait de nommer. Moi, je le traduis comme ça en français, on pourrait peut-être trouver d'autres façons. Donc voilà, la dénonciation, le call-out et le fait de nommer le call-in, et un petit peu l'idée que call-out, c'est vraiment cette idée que, pour prendre un exemple concret, on est dans un espace féministe et une personne va faire preuve de sexisme ou de misogynie intégrée et on va la dénoncer, mais dans une logique qui consiste un petit peu à l'exclure, à montrer qu'elle n'est pas pure finalement, à montrer que politiquement, elle n'a pas tout compris et donc, en fait, elle n'aurait pas vraiment sa place, voire elle serait dangereuse. Qui est une tendance en fait qui est vraiment lourdement à l'œuvre hein, dans beaucoup de milieux radicaux. Et le call-in qui est plutôt cette idée que on va nommer l'oppression là où elle apparaît, mais que on va pas le faire dans une logique d'exclusion et dans une logique quelque part de recherche de pureté. On va plutôt le faire dans une logique de nommer les choses pour pouvoir les mettre au travail et en prendre les responsabilités collectives plutôt que de faire peser sur des individus la responsabilité de la reproduction des rapports de domination. Donc le moralisme, c'est un peu ça, voilà. C'est la recherche de tout ce qui est moralement défectueux dans nos espaces militants. C'est la deuxième source. Et la troisième, c'est ce qu'ils appellent la lecture paranoïaque. C'est pas elle et lui d'ailleurs qui l'appellent la lecture paranoïaque, c'est inspiré d'une théoricienne queer qui s'appelle Eve Sidwick. Et la lecture paranoïaque, c'est un petit peu, ça, pour moi, c'est vraiment dans le prolongement du moralisme, c'est un petit peu cette idée que dès qu'un nouveau mouvement politique apparaît, on va chercher à le sonder, à en trouver ce qui est défectueux, à repérer ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et ça va de pair avec une forme de recherche de perfection. Alors, la lecture de Bergman et Montgomery, c'est que c'est notamment lié à l'école, en fait, et à la façon dont, massivement scolarisés, on construit une réaction ou un réflexe systématique qui consiste à chercher ce qui est parfait et les erreurs dans tout ce qu'on fait. Et qui est évidemment très dommageable en termes de lutte et de militantisme. Je pense que moi, un des exemples les plus flagrants que j'ai vu ces dernières années de ce type de lecture paranoïaque, ça a été l'apparition du mouvement des Gilets jaunes et une réaction dans les premières semaines, en tout cas, très largement partagée dans l'extrême gauche, qui était dans la condamnation, dans le rejet ou dans le dubitatif. Et donc, en fait, qui s'est avéré assez à côté de la plaque, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des choses à critiquer, mais puisque la première réaction, c'était de dire tout de suite, il y a ça, 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 ça qui ne vont pas, du coup, on condamne, ou du coup, on n'y va pas, ou voir des trucs même plus graves que ça à certains moments. On est vraiment dans ce type de lecture paranoïaque qui dit, en fait, on a en tête, et là aussi, ça rejoint l'idéologie, on a en tête ce qui fonctionne, ce qui est de l'ordre de la bonne politique, de ce qui est valable, de ce qui doit être fait. Et donc, tout ce qui ne correspondra pas à ça, on va le nommer. Et y compris dans une démarche qui, en fait, quand on est la personne qui nomme, et ça, il et elle en parle dans la partie sur le moralisme, hein, c'est un peu la logique du curé qui, pour être le plus pur possible, va devoir toujours être celui ou celle qui va dénoncer les péchés là où ils apparaissent, hein, dans la logique de la radicalité de gauche, qui a un peu cette même logique de dire « si je suis la personne qui pointe du doigt tout ce qui ne va pas, alors je suis nécessairement la personne la plus radicale ». Finalement, on devrait se questionner pourquoi est-ce que quand on parle de gentillesse, pourquoi est-ce qu'on, quand on parle de bienveillance, pourquoi est-ce que c'est des termes qui, tout de suite, dans les milieux radicaux, on ne les emploie pas parce qu'on a l'impression que c'est très naïf, c'est peu politique, que ça ne va pas amener un grand sérieux dans l'attention qu'on va nous porter derrière si on emploie ces termes-là. On pourrait se demander pourquoi, et notamment pourquoi, et la question centrale dans le livre, c'est pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas plus d'importance aux conséquences affective de nos manières de lutter. Pourquoi est-ce que ça ne paraît jamais être au centre des discussions le fait que beaucoup de gens dans les milieux radicaux peuvent avoir des expériences qui vont aggraver leur trauma, voire en créer. Pourquoi est-ce que ça, c'est jamais au centre de la discussion? Et moi, alors ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Nick et Carla. J'ai l'impression que quand même en France, on a, par exemple, un truc qui est assez visible, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, de l'expérimentation autour de nos pratiques de lutte, est souvent dans les milieux radicaux perçu comme une espèce de sous-catégorie de la pensée politique ou de la théorie politique. Et tout ce qui va être de l'ordre de l'expérimentation, par exemple, très concrètement, dans un événement militant, un atelier, ça ne vaut jamais une conférence, quoi. Donc, il vaut mieux aller écouter des personnes discourir. Bon, elles peuvent dire des choses très intéressantes au demeurant, ce n'est pas le problème. Plutôt que d'être dans un espace de mise en pratique et d'expérimentation. Et je pense que ça fait partie des choses que défend le livre assez fortement et qui, dans les milieux radicaux en France en tout cas, sont difficiles à mettre au débat, quoi.
Ce que ça nous empêche de faire quand on subit ces trucs-là, c'est que du coup, ça nous empêche, comme tu disais tout à l'heure, de nous reconnecter au vivant, à ce qui est en train de se faire, etc. Et en fait, alors que c'est ça même qui va apporter le pouvoir de transformation. Donc, ça nous coupe de nos affects, en fait.
Complètement. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les exemples et les témoignages qui sont rapportés dans le livre, c'est, je pense notamment à un militant mexicain, Gustavo Esteva, qui parle de ce qui a une expérience de militantisme au sein d'une guérilla, qui parle de son expérience au sein de la guérilla et qui raconte comment, en fait, alors qu'il est engagé dans cette guérilla et qu'il se passe des choses assez violentes, en 1986, il y a un énorme séisme à Mexico qui fait des ravages et derrière, il y a une auto-organisation populaire qui apparaît et qui, lui, vient complètement ébranler ses convictions quant à la façon de lutter. Et il explique derrière comment ça a complètement changé sa façon d'envisager le militantisme. Et notamment, il dit ce truc que je trouve très beau, il dit en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le militantisme, pour moi, finalement, c'était un acte d'amour. Et il parle derrière du militantisme auquel il s'attache plus à partir de ce moment-là, qui est plutôt un militantisme de base, on va dire, dans les quartiers populaires de Mexico, dans les communautés un peu partout au Mexique, et qui est en fait un militantisme du quotidien. Et c'est ça aussi, je pense, qui est un petit peu en tension dans le livre, en tout cas la tension que le livre vient démontrer, c'est un petit peu la tension entre une pratique militante radicale qui finalement, assez souvent, peut se soustraire au quotidien, et une lutte qui naît dans le quotidien, qui naît dans les communautés affectives existantes, dans les quartiers, dans les liens et les attachements qui sont déjà là, et qui n'apparaissent pas au gré de la lutte, en fait. Et donc, c'est un petit peu cette idée, je pense, de lutter à partir de où on est, et comment est-ce que, finalement, je pense que c'est aussi en lien avec un des éléments intéressants et sur lequel ils insistent beaucoup, c'est l'idée de notions communes de confiance et de responsabilité. Et je pense que dans cette idée de lutter à partir du quotidien, à partir de ce qui fait déjà notre entourage affectif, nos liens, il y a aussi cette idée que vient avec ça une forme de responsabilité. C'est-à-dire, en fait, finalement, quand tu luttes à partir de où tu vis, des gens avec qui tu vis, et pas, pour le dire assez caricaturalement, dans un collectif de ville avec des gens que tu vas croiser que finalement dans tes réunions militantes, mais pas par ailleurs, ou avec qui tu vas partager peu de choses, tu rends des comptes. Et collectivement, tu dois rendre des comptes. Et ça fait une grosse différence.
Vous êtes toujours dans Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel, et ce soir, nous vous diffusons des extraits d'un entretien réalisé avec Juliette Rousseau pour sa traduction de Joie militante, construire des luttes en prise avec le monde, par Carla Berman et Nick Montgomery, paru aux éditions du Commun. Je la laisse conclure sur ce que ça veut dire de tirer l'attachement.
ça peut pas être figé, ça peut pas être une injonction, il faut que ça soit nourri. Et là où moi je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait je pense que l'idée de nourrir des espaces de lutte, des espaces humains, des communautés humaines, de nourrir nos relations, c'est quelque chose qui en fait dans la vie du quotidien, dans tout un tas d'espaces sociaux où pour la survie la solidarité est nécessaire, c'est quelque chose qui existe, qui est là, qui n'a pas besoin d'être nommé. Pour autant, le fonctionnement de l'Empire nous amène toujours plus vers des modes de vie isolés dans lesquels finalement tout est délégué. C'est ça qui est intéressant, c'est de tirer l'attachement, ça veut dire aussi aller contre la séparation de ces espaces-là, aller vers des modes de vie dans lesquels on va devoir nourrir nos relations, on va devoir prendre soin de nos communautés immédiates.
Et avant de vous quitter, je voulais simplement vous lire les toutes premières lignes de sa préface. C'est aussi ça, les oreilles, on commence par la conclusion et on finit par le début. De sa préface donc, qui résume à elle seule comment, j'espère que cet ouvrage résonnera pour vous. Certains livres nous viennent lorsque nous avons le plus besoin d'eux. Ils rassérènent, guérissent un peu, répondant de façon puissante à nos propres situations. Ils proposent des mots là où on n'en avait plus, ou bien pas encore. Ils ont la tendresse et l'acuité propres à forcer les ouvertures. Joie militante et de cela.